Bien, je vous remercie d'avoir combattu le froid pour venir jusqu'ici. Dans le feuilleton interminable, nous en étions à l'application des accords d'Oslo et nous avions vu l'accord intérimaire qui permettait le retour d'Arafat à Gaza et à Jéricho. Mais en même temps, le front libanais se réactive durant cette période. Le 21 mai 1994, un commando israélien enlève Mustafa Dirani, qui est un des leaders du Hezbollah, dans un secteur tenu par l'armée syrienne. Oui, voilà. Et Rabin se félicite de cet éclatant succès. L'objectif est d'obtenir des informations supplémentaires sur le sort de Ron Arad, de ce navigateur israélien, pilote d'avion, qui est disparu au Liban depuis plusieurs années. Les Israéliens cherchent absolument à retrouver la trace. Il semblerait qu'il ait été livré au Hezbollah, qu'il aurait livré à l'Iran, mais tout ça est une large série d'hypothèses. Le Hezbollah menace Israël de représailles, tandis que le gouvernement libanais dépose une plainte au Conseil de sécurité. Le 24 mai, des raids israéliens aériens sur des positions de Hezbollah font 2 blessés. Hassan Nasrallah accuse Israël de faire du terrorisme d'État avec l'appui de la communauté internationale, la bénédiction américaine et la complicité des Arabes. Il affirme que le but de l'occupation israélienne est de remonter le moral de ses troupes et de ses agents au Liban Sud, sérieusement entamé par de multiples attaques de la résistance. Fin de citation. Il s'en prend au gouvernement libanais et menace, je cite, « L'ennemi a choisi d'élargir le camp de ses agressions et qu'il assume ainsi la responsabilité de la riposte de la résistance qui frappera là où ne s'y attend et là où ne s'y attend pas. » Le 2 juin, un raid aérien israélien sur un camp d'entraînement de Hezbollah fait au moins 45 morts et une centaine de blessés. La résistance islamique réplique par des tirs de roquettes sur la Galilée, tandis que les funérailles des victimes se transforment en imposantes manifestations anti-israéliennes et plusieurs dizaines de milliers de civils israéliens sont contraints de se réfugier dans les abris en Galilée. Rabin somme la Syrie de faire cesser les tirs et marque qu'il se trouve dans le cadre des arrangements informels puisque l'armée israélienne n'en s'en est pas pris aux civils. On envoie des renforts à la frontière libanaise en laissant peser la menace d'une nouvelle invasion du pays. Mais conscient du rapport des forces, le Hezbollah cesse ses tirs. Les Israéliens le soupçonnent de préparer un grand attentat à l'étranger. Au Conseil de sécurité, les États-Unis bloquent les projets de résolution condamnant Israël proposés par les non-alignés. Ils veulent un texte mettant sur un pied d'égalité Israël et le Liban, ce qui est inacceptable pour Beyrouth. Le 20 juin, 3 soldats israéliens sont tués dans une embuscade tendue par le Hezbollah dans le Liban Sud. Israël reprend ses raids aériens contre les positions supposées de la résistance islamique. En juillet, on semble s'installer dans la routine des attaques du Hezbollah et des représailles israéliennes. Les méthodes de la résistance islamique deviennent de plus en plus perfectionnées, avec en particulier un grand art du camouflage des bombes et des mines sur les voies de passage de l'ALS et de l'armée israélienne. Le repérage des mouvements de l'ennemi est minutieux. On frappe en force, puis ensuite on se replie immédiatement. La clandestinité est plus grande, d'où une moindre efficacité des raids aériens israéliens. Le 18 juillet, le siège de l'Association mutuelle israélite de Buenos Aires, en Argentine, est victime d'un attentat faisant 84 morts et 250 blessés. Immédiatement, Israël implique l'Iran et le Hezbollah sans pouvoir fournir de preuves concluantes. Ce serait un acte de représailles pour les actions israéliennes au Liban, en particulier l'enlèvement de Dirani et le raid du 2 juin. Quasi par automatisme, Téhéran répond en accusant Israël et la CIA. À Beyrouth, le Hezbollah dément toute relation avec l'attentat. L'enquête qui s'en suivra sera conduite avec pour le moins beaucoup d'irrégularités et d'incompétences. On a évoqué des compromissions entre le président argentin Menem et la Syrie ou l'Iran. Les poursuites judiciaires sont régulièrement relancées jusqu'à aujourd'hui dans ce qui est devenu aussi une ténébreuse affaire argentine. Des attaques réussies du Hezbollah à la fin juillet font remonter la tension au Liban Sud, d'autant plus que l'ambassade d'Israël ainsi qu'une institution communautaire juive à Londres sont victimes d'attentats qui font une vingtaine de blessés. Israël réclame une action internationale contre le terrorisme. On parle de mesures militaires israéliennes contre le Hezbollah, voire l'Iran. Le 4 août, un raid contre une position de Hezbollah fait 7 morts et 28 blessés civils. Israël s'empresse d'affirmer qu'il s'agit d'une erreur de tir et qu'une enquête est en cours. Je cite, « L'armée israélienne ne cherche pas à frapper des civils innocents et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cette défaillance. » Fin de citation. C'est que selon l'accord informel, cela donne droit au Hezbollah de répondre par des tirs sur la Galilée. De fait, les 5 et 6 août, des salves de roquettes tombent sur la Haute-Galilée, blessant 4 civils israéliens, dont 3 enfants. Le 6 août, 2 soldats israéliens sont tués dans la zone de sécurité dans des opérations de Hezbollah. 2 villages chiites à proximité de la zone de sécurité sont soumis à un blocus de plusieurs semaines par l'armée israélienne en punition de leur accueil des combattants de la résistance islamique. Cette guerre à basse intensité se poursuit ainsi au Liban Sud. Comme l'explique le Brani à la fin du mois d'août, je cite, « En intensifiant ses attaques au sud, le Hezbollah essaie d'entraîner les Israéliens vers une confrontation militaire avec lui, ce qui est de nature à torpiller les négociations de paix. Mais nous ne laisserons pas prendre dans le piège qu'il nous tend. Israël n'a pas l'intention d'entreprendre une opération d'envergure contre le Hezbollah au Liban, mais continuera à riposter à ses attaques contre le nord d'Israël et la bande frontalière. » Mais pendant ce temps-là, la négociation se poursuit. Comme je l'ai dit souvent, pour se représenter la scène, il faut avoir un écran fragmenté dans lequel, d'un côté, vous voyez des opérations militaires, de la violence, et de l'autre, des processus politiques. L'accord Gaza-Jéricho a ravivé les inquiétudes du roi Hussein de se voir marginalisé, d'autant plus que les États-Unis poussent publiquement à la conclusion d'un accord israélo-syrien. Puisqu'il ne peut plus compter sur un front uni arabe, il doit avant tout assurer les intérêts de son royaume. Le 19 mai, il reçoit secrètement à Londres une délégation israélienne menée par Rabin. Le monarque lui demande s'il est prêt à avancer dans le dossier jordanien. Le Premier ministre lui répond positivement. Il garantit à la Jordanie une position privilégiée dans la gestion des lieux saints musulmans de Jérusalem. Le roi donne son accord à la rédaction d'un traité de paix, au transfert des négociations de Washington au Proche-Orient. En échange, Rabin s'engage à utiliser son influence à la Maison-Blanche et au Congrès pour obtenir une annulation de la dette jordanienne et à la reprise des livraisons d'armement à l'armée jordanienne. Au début de juin, se tient la dernière session bilatérale jordano-israélienne à Washington. Le roi a donné instruction à ses représentants de s'en tenir exclusivement à la défense des intérêts jordaniens. C'est aux Palestiniens de se débrouiller avec les Israéliens. On progresse sur les ordres du jour, sur l'eau, l'énergie, l'environnement et sur le principe d'une coopération dans le domaine du tourisme et des régions frontalières. Le 7 juin, on a suffisamment avancé pour que l'on puisse parler de la fin de l'état de belligérance. Le 8 juin, remaniement ministériel à Amman renforce la position des partisans d'un accord de paix. Le 9 juin, un véritable cadre de négociation est fixé. Il comprend une coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte antiterroriste. En ce qui concerne les frontières, je cite, Les parties régleront les questions territoriales et la démarcation et la délimitation définitive convenue de la frontière internationale entre la Jordanie et Israël en se référant à la délimitation de la frontière sous le mandat, sans porter préjudice au statut des territoires passés sous contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967. Les deux parties respecteront et se conformeront à la frontière internationale susmentionnée et préserveront la coexistence pacifique le long de la frontière, créant une réalité vivante et chaleureuse pour le bénéfice des populations des deux côtés. Vous remarquerez la formule « territoire passé sous contrôle du gouvernement militaire » pour ne pas dire « territoire occupé ». Puisque juridiquement, un territoire occupé a une signification technique. Le 18 juin, le roi Hussein se rend en visite privée à Washington. Il explique à ses interlocuteurs américains qu'il est prêt à signer la paix, mais qu'il lui faut démontrer qu'il n'est pas seul, c'est-à-dire obtenir une réduction ou une annulation de la dette et de l'armement pour son armée. L'administration Clinton se montre favorable, mais souligne l'hostilité du Congrès qui attend d'abord un geste spectaculaire de la Jordanie. Autrement dit, traité d'abord, l'aide ensuite. Dans les coulisses, Ephraim Halevi, qui est la personne qui est chargée des relations entre Israël et la Jordanie, s'active en faveur des demandes jordaniennes, au point qu'on lui demande s'il représente Israël ou la Jordanie. Il répond les deux. Le roi est reçu par Bill Clinton le 22 juin, qui l'impressionne par sa maîtrise des dossiers. Le président lui fait comprendre qu'il faut un geste qui pourrait être une rencontre publique avec Rabin en présence des Américains. Le roi sort convaincu du soutien américain. Il a déjà déclaré la veille « Nous sommes sur le point d'entamer des négociations sérieuses qui pourraient conduire à l'instauration de la paix. » Fin de citation. Et a répété publiquement qu'une rencontre avec M. Rabin avant la signature d'un traité était très possible. Il prend néanmoins quelques jours de réflexion et de repos. Il faut dire que son état de santé ne s'est pas vraiment amélioré. Vous voyez, sur les photos de l'époque, on n'a plus du tout le jeune homme brillant des années 50. On sent la fatigue due à la maladie qui a frappé le monarque. Le 4 juillet, Hussein propose aux Américains une réunion tripartite États-Unis, Jordanie, Israël, au bord de la mer Morte. Le 7 juillet, la radio israélienne annonce que les pourparlers israélo-jordaniens vont reprendre de 18 au Wadi Araba, à la lisière des deux pays. Le roi Hussein confirme immédiatement. Le 9 juillet, le monarque fait un discours à la Sadat devant son parlement. Il est temps que la Jordanie prenne en considération ses propres intérêts, avant tout la récupération de ses territoires, les ressources en eau, l'aide économique et militaire des États-Unis. Il est prêt à un prochain sommet public avec Rabin. Je cite, « Si cette rencontre constitue le prix à payer pour changer la physionomie de la Jordanie, alors je n'hésiterai pas du tout et je considérerai même cela comme un service à rendre à mon cher pays confronté à des menaces de toutes parts. » Fin de citation. Après tout, le territoire jordanien occupé par Israël n'est que de 386 km², sur une superficie plus grande que la bande de Gaza. Le 12 juillet, le roi envoie une lettre à Clinton proposant une rencontre avec Rabin à la frontière jordano-israélienne, suivie 3 ou 4 jours après d'un sommet tripartite à Washington. Mais Clinton ne l'entend pas ainsi. Il veut que la première rencontre se déroule à la Maison-Blanche. Il explique au souverain hachémite que c'est indispensable pour obtenir du Congrès l'annulation de la dette jordanienne qui se rapproche de milliards de dollars. Le roi s'incline et l'on convient de la date du 25 juillet. On suit donc le plan prévu. Le 18 juillet, les deux délégations se réunissent sous des tentes au Wadi Araba. Après les cérémonies protocolaires, on aborde les dossiers techniques particulièrement bien préparés par les Jordaniens. Le 20 juillet se tient sur la rive jordanienne de la mer Morte la rencontre tripartite Peres-Christopher Majali, Majali étant le premier ministre jordanien. À son habitude, Peres lance de mirifiques projets économiques, tandis que Majali, plus concret, s'en tient aux questions de coopération. L'essentiel n'est pas le contenu des discussions, mais le fait qu'elles se tiennent publiquement en territoire jordanien. Les Israéliens sont particulièrement émus. La population jordanienne est plutôt résignée. Le pouvoir tente de vendre la future paix avec Israël comme l'annonce de la prospérité à venir. Conscient du rapport de force défavorable, les frères musulmans refusent de se lancer dans une confrontation avec la monarchie. Les Palestiniens accusent le roi d'être prêt à sacrifier le statut politique de Jérusalem en contrepartie de la reconnaissance de son autorité sur les lieux saints musulmans. Les jours suivants, dans les coulisses, les émissaires des deux pays travaillent à la déclaration commune qui doit être approuvée à Washington. Si les Américains en sont informés, ce n'est pas le cas de Peres que Rabin tient à l'écart. Ross et son équipe s'occupent d'obtenir l'approbation du Congrès pour les contreparties financières que demande la Jordanie. La réunion du 25 juillet se tient dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. La poignée de main entre Rabin et le roi Hussein n'a pas le caractère contraint de celle qui avait eu lieu avec Arafat au même endroit. Elle est nettement plus fraternelle, comme vous pouvez le voir sur la photo. La déclaration de Washington, négociée jusqu'au dernier moment, est signée à la Maison-Blanche. Elle est signée par Rabin, le roi Hussein, Clinton servant de témoin et d'hôtes. Elle marque la fin du conflit israélo-jordanien. Je cite. « Après des générations d'hostilité, de sang et de larmes, et dans le sillage d'années de douleur et de guerre, Sa Majesté le roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin sont déterminés à mettre un terme à l'effusion de sang et au chagrin. C'est dans cet esprit que le roi Hussein du royaume hachémite de Jordanie et le Premier ministre et ministre de la Défense d'Israël se sont rencontrés aujourd'hui à Washington à l'invitation du président William Clinton. L'initiative du président William Clinton constitue une étape historique dans les efforts inlassables des États-Unis pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. L'engagement personnel du président a rendu possible de parvenir à un accord sur le contenu de ces déclarations historiques. La signature de cette déclaration constitue un témoignage de la vision du président et de son dévouement pour la cause de la paix. 5 principes pour parvenir à une paix juste et durable ont été définis. La conclusion d'un traité de paix entre la Jordanie et Israël, basé sur tous les aspects des résolutions 242 et 338, est fondée sur la liberté, l'égalité et la justice. La revendication jordanienne sur les lieux saints est consacrée. Je cite. Israël respecte l'actuel rôle particulier joué par le royaume hachémite de Jordanie dans les lieux saints musulmans de Jérusalem. Lorsque s'ouvriront les négociations sur le statut permanent, Israël donnera une grande priorité au rôle historique joué par la Jordanie dans ces lieux saints. En outre, les deux parties sont convenues d'agir ensemble pour promouvoir les relations entre les trois religions monothéistes. Fin de citation. Les deux pays reconnaissent leurs droits et leurs obligations à vivre en paix l'un avec l'autre, ainsi qu'avec tous les autres pays, dans le cadre de frontières sûres et reconnues dans le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique. Je cite. Les deux pays souhaitent développer de bonnes relations de voisinage fondées sur la coopération pour garantir une sécurité durable et éviter entre eux les menaces et le recours à la force. Le long conflit entre les deux États arrive maintenant à son terme. Dans cet esprit, il est mis fin à l'état de belligérance entre la Jordanie et Israël. À la suite de cette déclaration et conformément à l'ordre du jour commun, les deux pays s'abstiendront chacun de leur côté d'action ou d'activité pouvant affecter négativement la sécurité de l'autre ou pouvant porter préjudice à l'issue finale des négociations. Aucune des deux parties ne menacera l'autre et ensemble, elles s'opposeront aux menaces à leur sécurité résultant de n'importe quelle forme de terrorisme. Fin de citation. La déclaration prend acte des progrès enregistrés dans tous les domaines par les négociateurs. On cherche aussi à traiter des dimensions psychologiques du conflit. Je cite. Sa Majesté le roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin estiment que des mesures doivent être prises pour surmonter les barrières psychologiques et rompre avec l'héritage de la guerre. En travaillant avec optimisme pour recueillir les dividendes de la paix pour tous les peuples de la région, la Jordanie et Israël sont déterminés à assumer leurs responsabilités concernant la dimension humaine de l'établissement de la paix. Ils reconnaissent que les déséquilibres et les disparités sont une cause à l'origine de l'extrémisme qui se nourrit de la pauvreté, du chômage et de la dégradation de la dignité humaine. Dans cet esprit, Sa Majesté le roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin ont aujourd'hui approuvé une série de mesures pour symboliser la nouvelle ère qui est maintenant à notre portée. Ces mesures comprennent l'établissement de liaisons téléphoniques directes, la connexion des réseaux électriques, l'ouverture de deux nouveaux points de passage, le libre accès pour les touristes venus d'un pays tiers, la mise en place de corridors aériens, une coopération policière en particulier contre le trafic de drogue, la poursuite des négociations sur la coopération bilatérale comprenant l'abolition de toute forme de boycottage et des rencontres régulières entre Sa Majesté le Roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin. Le lendemain, Rabin et le roi Hussein s'adressent conjointement au Congrès des États-Unis. Leurs discours lyriques reçoivent de nombreuses ovations. Immédiatement, une procédure législative est lancée pour effacer 220 millions de dollars de dettes jordaniennes, soit environ le quart de ce que la Jordanie doit aux États-Unis. L'autorité palestinienne rappelle qu'Israël, en tant que puissance occupante, n'a aucun droit à parler de Jérusalem-Est et que seuls les Palestiniens sont habilités à traiter de ce dossier. Arafat évoque une violation de la déclaration de principe puisque le sort de Jérusalem a été évoqué entre Israéliens et Jordaniens. Les intéressés répondent qu'ils dissocient les affaires religieuses des questions politiques, ce qui paraît très difficile pour une ville sainte. Un journal pro-jordanien de Jérusalem se trouve interdit dans les territoires occupés, ce qui entraîne sa fermeture. On s'inquiète du danger pour la liberté d'expression que constitue le régime qu'Arafat est en train d'établir. L'entourage d'Arafat réplique qu'il est impossible de faire publier un journal pro-OLP en Jordanie. Dans le même ordre d'idées, prétextant de ses difficultés financières, l'OLP cesse définitivement tout versement au contingent de l'armée de libération de la Palestine, stationnant en Jordanie. Il est jugé plus loyal envers le roi Hussein qu'envers Arafat. De ce fait, l'autorité palestinienne renonce à utiliser une force particulièrement bien disciplinée qui avait reçu une formation spécifique aux missions de police. Toujours la priorité du politique sur la pratique dans le comportement d'Arafat. À son retour, le roi Hussein peut survoler Jérusalem dans l'avion qu'il pilote lui-même. Il inaugure ainsi le nouveau corridor aérien qui permet de raccourcir l'accès à la Jordanie. Avant, il fallait contourner Israël. Cela tranche avec le sort d'Arafat bloqué à Gaza. Les Israéliens lui interdisent même d'utiliser ses hélicoptères pour se rendre à Jéricho. Les deux mois suivants, négociateurs jordaniens et israéliens travaillent activement sur tous les dossiers à régler. À son arrivée dans la région, Warren Christopher s'est révélé particulièrement optimiste. Je cite. Le conflit du Proche-Orient arrive à sa fin. Fin de citation. Lors de son passage à Jérusalem, il a demandé à Rabin quelles étaient ses positions. Le seul élément nouveau est la proposition d'une station d'alerte syrienne en territoire israélien contre le maintien de la station israélienne du Mont Hermon. Ross, en collaboration avec Rabinovitch, élabore une nouvelle formule ambiguë. La frontière serait celle du 4 juin 67, du moment qu'elle ne constituerait pas une menace pour sa sécurité et pour ses besoins en eau. Dans la lecture israélienne, cela veut pouvoir dire justement une modification des lignes du 4 juin 67. Rabin l'autorise à dire à Assad qu'il a toutes les raisons de croire que ce sera l'aboutissement, mais qu'Israël ne l'exprimera qu'une fois acquis que ses besoins seront satisfaits. À Assad, Christopher s'exprime clairement. Une fois les demandes israéliennes accomplies, il aura les lignes du 4 juin 67. Cet engagement est dans la poche des Américains et non dans celle des Syriens. In any case, this is in our pocket, not yours. En anglais dans le texte. Les Israéliens n'en parleront pas tant que l'on ne sera pas mis d'accord sur tout le reste. Dans la logique des négociateurs américains, quand les Syriens se rendront compte de l'ampleur des bénéfices acquis dans l'accord, ils auront tout intérêt à se montrer souples dans la définition finale de la frontière. Assad fait une première concession en offrant que le retrait israélien se déroule sur un an et non plus sur 6 mois. Rabin ne se montre pas particulièrement impressionné, mais accepte le principe des discussions entre Rabinovitch et son homologue syrien à Washington, Walid Moralim, au domicile de Ross dans le Maryland. J'essaie de me retrouver. Voilà. Le fait que la télévision syrienne a retransmis la réunion Rabin-Hussein à Washington est considéré comme un signe encourageant, d'autant plus que la presse syrienne a rendu compte sur un ton plutôt neutre. Au début du mois d'août, Christopher fait une nouvelle tournée au Proche-Orient. Il est avant tout là pour célébrer l'application de la déclaration de Washington. Il inaugure ainsi avec Rabin et le prince héritier Hassan le nouveau point de passage à proximité d'Aqaba, destiné avant tout aux touristes étrangers. Il presse Israël et la Syrie de maintenir le calme au Liban Sud. Une nouvelle explosion de violence compromettrait le processus de paix. Il transmet une proposition israélienne de retrait graduel du Liban Sud, mais avec pour préalable le désarmement du Hezbollah et l'intégration de la LS dans l'armée libanaise, ce dont ni Beyrouth ni Damas ne veulent entendre parler. Damas se déclare satisfait du caractère sérieux des discussions en cours, et Rabin affirme qu'il existe de petits signes encourageants sur la volonté syrienne d'avancer dans le processus de paix. En fait, les discussions entre ambassadeurs ont commencé le 29 juillet. Malgré leur caractère dit informel, tout est scrupuleusement noté afin d'éviter d'éventuelles incompréhensions ultérieures. Rabinovitch dépend directement du Premier ministre qui tient à l'écart du dossier Shimon Peres. Donc on saura plus tard que, par exemple, Shimon Peres n'a pas été informé du fameux dépôt dans la poche des Américains de l'engagement de se retirer sur les lignes du 4 juin 1967. C'est un sujet très compliqué, cette histoire du dépôt dans la poche des Américains, puisque, en fait, il n'y avait que 5 ou 6 personnes qui étaient au courant. Christopher, Ross, Rabinovitch et Rabin. Donc ça faisait 4 personnes, il ne devait pas avoir un 5e sur le dossier. Au Caire, le secrétaire d'État promet à Arafat d'accélérer l'arrivée de l'aide internationale tout en exigeant de lui qu'il s'engage à en respecter les conditions. En conclusion de sa tournée, Christopher déclare que la paix entre Israël et tous ses voisins arabes est envisageable d'ici la fin 1996. Mais cet optimisme ne doit pas dissimuler les difficultés de l'autonomie palestinienne. Le 10 août, Rabin rencontre Arafat à Eretz, donc c'est le point de passage entre la bande de Gaza et Israël. Cette entrevue d'une heure a pour finalité de montrer que le chef palestinien n'est pas marginalisé par l'accord israélo-jordanien. On rappelle solennellement les objectifs de la déclaration de principe et on minimise volontairement les divergences. Le Hamas continue ses attentats. Le 14 août, un Israélien est tué dans la zone contrôlée par l'autorité palestinienne. C'est une provocation qui force Arafat à lancer une épreuve de force. Sa police lance de véritables rafles. Une 20aine de cadres du Hamas sont arrêtés et longuement interrogés. Pour être libérés, ils doivent signer un document dans lequel ils s'engagent à ne pas porter atteinte à la loi et l'ordre dans l'autonomie. Le Hamas dénonce à Arafat devenu un instrument de l'occupation, mais refuse la confrontation directe. Le djihad islamique tient un discours équivalent. Je résume. L'autorité palestinienne est un pouvoir laïque, occidentalisé et despotique qui devient un instrument de la politique israélienne soumise aux États-Unis, mais il n'est pas question de se lancer dans une guerre civile. S'ils sont habiles, les négociateurs palestiniens profiteront du rapport de force créé par les opérations conduites contre l'occupation. Selon son principe de diviser pour régner, Arafat multiplie les services de sécurité. Une police de circulation, une force de sécurité nationale, une police politique préventive, un service de renseignement et une garde présidentielle. Il recrute massivement des anciens activistes de l'intifada pour leur donner un emploi et les neutraliser. La population commence à se plaindre de leur arbitraire et de leur brutalité. Il est vrai qu'à force d'occupations successives, la société palestinienne s'est plutôt construite contre l'autorité de l'État et que les policiers improvisés n'ont aucune formation au maintien de l'ordre et ont tendance à adopter des comportements de type milicien. Il se produit même des affrontements armés entre 2 services de sécurité. Néanmoins, la division des services de sécurité obéit aussi à une logique institutionnelle. Elles sont destinées à devenir des institutions séparées d'un futur État palestinien. Police, gendarmerie, contre-espionnage, douane, garde-frontière, garde-côte, etc. Rabin conditionne la poursuite du processus à la répression. Je cite. Nous exigeons des mesures sérieuses contre les groupes terroristes, faute de quoi nous pourrions réexaminer la possibilité de transférer aux Palestiniens les pouvoirs civils en Jordanie. » Fin de citation. Il se déclare satisfait des mesures prises par l'autorité palestinienne. D'ailleurs, il tolère l'intervention d'hommes d'Arafat dans les zones occupées et à Jérusalem-Est, du moment qu'ils s'en prennent aux adversaires du processus de paix. Peres se rend dans la bande de Gaza le 19 août à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire des accords d'Oslo. C'est le premier dirigeant israélien à se rendre dans un territoire autonome. Il annonce l'imminence du transfert des pouvoirs civils en Cisjordanie, insiste sur l'amendement de la charte de l'OLP. Tous les membres du Conseil national palestinien pourront se rendre à Gaza, mais ils n'auront pas le droit de résidence. Ce fait l'avocat ardent du financement international et de la nécessité de contrôler les opposants au processus de paix. 250 prisonniers palestiniens seront libérés et renvoyés à Jéricho. Arafat, lui, exige le respect du calendrier prévu et conteste toujours le rôle privilégié donné à la Jordanie et à Jérusalem. Tout en défendant le maintien de l'ordre, il refuse la perspective d'une guerre civile avec le Hamas. Mais ce dernier continue à défier son autorité en revendiquant l'assassinat à coups de couteau de deux Israéliens à Ramla, près de Tel Aviv, par des travailleurs clandestins palestiniens. Ils se sont réfugiés dans la bande de Gaza. Israël exige qu'on les lui remette, mais on progresse dans la question des compétences de l'autorité palestinienne. Arafat remet à plus tard l'amendement de la charte palestinienne. Il n'est pas sûr de pouvoir réunir une majorité suffisante au sein du CNP, au moins dans sa composition actuelle. Les opposants à sa ligne politique se sont coalisés pour lui refuser l'autorité de conclure avec Israël et de tenir un CNP à l'ombre de l'occupation. Sa stratégie est de vider progressivement l'OLP de ses compétences au profit de l'autorité palestinienne, puis en fonction de cela, de recomposer le Conseil national palestinien pour avoir la majorité suffisante. Il concentre ses moyens sur les territoires palestiniens, abandonnant la diaspora palestinienne à son propre sort. Là, c'est vraiment le moment pivot où l'OLP cesse progressivement d'être l'expression des Palestiniens de l'extérieur pour prendre le contrôle des territoires occupés. Inversement, plus l'OLP va se renforcer à l'intérieur, plus son poids ou son influence sur les Palestiniens de l'extérieur va décliner. Et ce qui va faire qu'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de représentation politique des Palestiniens de l'extérieur du fait du déclin effectif de l'OLP dans ce domaine. À la fin du mois d'août 1994, tout le secteur de l'enseignement dans les territoires occupés est transféré à l'autorité palestinienne, ce qui lui impose une nouvelle charge financière. Elle ne gère que l'existant. La construction d'un bâtiment avec des services d'annexe d'eau et d'électricité pour de nouvelles écoles suppose une autorisation préalable des autorités d'occupation. Le 24 août, un nouvel accord qualifié d'historique et paraphé au Caire est signé le 29 août. L'État hébreu s'apprête à abandonner aux habitants des territoires occupés la gestion de la culture, du sport, de la coopération internationale, de la jeunesse, des affaires sociales. Les Palestiniens pourront également mettre en place leur propre système fiscal. Il reste maintenant à aborder la question plus difficile de l'organisation des élections palestiniennes, ce qui inclut le redéploiement au préalable des forces israéliennes en dehors des principales villes palestiniennes. On parle encore du mois de décembre 1994, mais on commence à en douter. Cela tranche avec la réaffirmation de l'indépendance d'Arafat. Ce dernier a invité le premier ministre du Pakistan, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, à se rendre dans la bande de Gaza. Israël exige que Mme Benazir Bhutto lui présente une demande d'autorisation préalable et interdit à un diplomate pakistanais venu d'Égypte de se rendre à Gaza. Benazir Bhutto annule sa visite alors que Rabin s'en prend à cette dame à qui on devrait apprendre des bonnes manières, dit-il. The lady from Pakistan should be taught some manners. En anglais dans le texte, si on peut dire. Le Maroc ouvre un bureau de liaison en Israël qui en fait de même à Rabat. Pour faire bonne mesure, un second bureau marocain établi à Gaza. C'est un signe supplémentaire de l'ouverture du monde arabe envers Israël après les accords d'Oslo. Hassan II cherche ainsi à renforcer sa position internationale et est intéressé aux perspectives économiques de la paix. Il tient aussi au contact avec les juifs israéliens d'origine marocaine et à son rôle de président du comité Jérusalem de la conférence islamique. Israël est d'ailleurs prêt à lui reconnaître un rôle religieux dans la ville sainte, là encore au grand déplaisir des Palestiniens. Oman et Bahreïn ont aussi noué des contacts avec Israël. Il en est de même pour la Tunisie, qui reste parallèlement le siège diplomatique de l'État de Palestine. Israël et la Tunisie conviennent d'établir des bureaux d'intérêt au sein des ambassades de Belgique à Tunis et à Tel Aviv. Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe lèvent partiellement le boycottage de l'État hébreu. Il s'agit du boycottage dit secondaire, c'est-à-dire celui qui vise les personnes physiques et morales entretenant des relations d'affaires avec Israël ou ayant simplement des sympathies sionistes en raison de leur confession ou celle de leurs dirigeants. Et boycottage tertiaire, celui qui concerne les entreprises ayant des liens avec la catégorie précédente. Concrètement, on supprime la liste noire comprenant les noms des entreprises et personnes mentionnées. Cette décision, présentée comme pouvant aider un processus de paix, est avant tout le produit d'intenses pressions américaines. Après une embuscade du djihad islamique contre une patrouille israélienne à proximité d'une colonie de la bande de Gaza qui a fait un mort dans les rangs israéliens le 4 septembre, Arafat ordonne une rafle des cadres du mouvement à la grande colère de l'opposition. Ils seront libérés au bout de quelques jours. À la conférence des pays donateurs de Paris, le 9 septembre, l'autorité palestinienne a fourni un budget détaillé comprenant les projets de développement. L'obtention des crédits paraît assurée, mais comme le budget concerne aussi des projets à Jérusalem, Israël obtient, en dépit des tentatives de médiation de la Norvège, l'annulation de la réunion. La Bildschart accuse les Israéliens de blocage délibéré, puisqu'ils avaient le projet de budget depuis 2 semaines. Il évoque le risque de désastre en cas d'effondrement économique de l'autorité palestinienne. La force des Palestiniens sur le plan international réside dans leur faiblesse, pour paraphraser une formule célèbre. La communauté internationale est décidée à investir massivement dans le processus de paix et Arafat est le seul partenaire possible. On ne peut se permettre de le voir échouer, d'où la nécessité de l'aide. Le premier anniversaire de la déclaration de principe est donc l'occasion d'un bilan mitigé. D'un côté, on a la fin d'un certain nombre de barrières psychologiques et le retrait israélien d'une grande partie de la bande de Gaza, ainsi que le transfert en cours d'un certain nombre de domaines de compétences. De l'autre, on a une autonomie restreinte sous haute surveillance israélienne dans des territoires économiquement sinistrés, soumis au bon vouloir des bailleurs de fonds étrangers. Pour la société israélienne, ce qui compte le plus, c'est la fin des violences, d'où un sentiment fort de déception du fait que Arafat n'apparaît pas comme le gendarme que l'on attendait qu'il fût. Pour les Palestiniens, on est extrêmement loin de la constitution d'un État. L'autorité palestinienne doit à la fois construire une administration, faire face à une opposition remuante, surtout islamiste, et négocier avec Israël, que l'on soupçonne avec de bonnes raisons, de vouloir limiter l'autonomie à une gestion de sous-préfecture. Ce qui n'est pas péjoratif pour les sous-préfectures. La langue politique palestinienne voit la multiplication de jeux d'opposition. Gens du retour ou retournés, citoyens, réfugiés, résidents, autorités, peuple, Fatah, Hamas, corrupteurs, propres, possédants, non possédants. Outre la forte opposition islamiste, il existe une certaine société civile qui tente d'être vigilante dans la défense des droits des personnes. Quand l'autorité palestinienne prend des mesures contre les islamistes, elle doit faire face aux critiques des ONG. Mais Arafat travaille à coopter dans son système une partie des opposants en leur offrant des fonctions administratives bien rémunérées, tandis que l'aide internationale se détourne des ONG qui perdent ainsi une bonne part de leurs moyens. Vous vous rappelez qu'on avait vu la dernière fois que les ONG pesaient pratiquement autant que le secteur privé du point de vue de l'emploi dans la société palestinienne. Donc, c'est évidemment un facteur important. Les bonnes intentions ne peuvent dissimuler les problèmes. Arafat veut la tenue le plus tôt possible des élections palestiniennes avec son corollaire du redéploiement de l'armée israélienne. Rabin y est hostile. Il souhaite une approche graduelle des négociations avec les Palestiniens sur l'extension de l'accord intérimaire concernant l'ensemble de la Cisjordanie. Il s'en tient à sa conception administrative de l'autonomie. Je cite. Par le biais des élections prétendues dans les territoires, l'autorité palestinienne cherche à obtenir des signes de souveraineté nationale. C'est sans doute la principale raison pour laquelle la tenue de ces élections est retardée. Déclaration 19 septembre 1994. C'est toujours le même problème qu'on trouvait à l'époque coloniale, c'est-à-dire reconnaître suffisamment de souveraineté à son interlocuteur pour qu'il accepte le marché, mais un marché qui lui limite sa souveraineté. Donc il faut qu'à la fois que les Palestiniens aient de la souveraineté pour conclure, mais qu'en même temps ne reconnaissent pas beaucoup de souveraineté. C'est toujours ce type de problème qui se pose dans ce genre de relation. Rabin récuse en particulier le souhait de l'OLP d'élire un conseil législatif d'une centaine de membres et non un simple exécutif d'une trentaine de personnes aux compétences limitées. Les autorités d'occupation refusent de transmettre aux Palestiniens les données d'état civil nécessaires pour confectionner les listes électorales en Cisjordanie et interdisent toute tentative de procéder à un recensement. L'autre problème est la sécurité des colonies et des territoires israéliens. Si la bande de Gaza est complètement clôturée, ce n'est pas le cas de la Cisjordanie. Comment évacuer les villes palestiniennes alors que des milliers de colons vivent à proximité ou en plein centre, comme à Hébron? Il faudrait ouvrir partout, comme on l'a fait pour Jénin, Bethléem et Jéricho, des routes de contournement exclusivement réservées aux colons, ce qui implique des délais considérables et de nouvelles confiscations de terres palestiniennes. Vous voyez sur cette carte les routes de contournement. Donc vous avez les principales routes tenues par les Israéliens. Et ça, ce sont les routes complémentaires qui sont faites. Et donc, le but est que, vous voyez, ces routes évitent les agglomérations arabes. Mais en même temps, elles vont servir à coaguler autour d'elles les colonies. Puisqu'une fois que la route est faite, on pourra rajouter des colonies le nom de la route. J'espère que la carte est suffisamment claire. Certains évoquent la nécessité de passer tout de suite aux négociations finales, puisqu'on ne peut pas mettre entre parenthèses la question des colonies durant la période intérimaire. Rabin ne veut pas en entendre parler. Il ne voit pas le cercle vicieux dans lequel il est en train de s'installer. Il considère que les colonies sont des atouts indispensables pour pouvoir maintenir le contrôle des territoires et des éléments essentiels du marchandage final. Ainsi, le maintien des colons à Hébron permet de continuer d'occuper le terrain et établir des droits. Mais la nécessité d'assurer la sécurité des colons implique le maintien sur le terrain d'importantes forces militaires à proximité des agglomérations arabes et rend impossible toute continuité territoriale de l'autonomie palestinienne. Ainsi, afin d'assurer le règlement final, on rend précaire la solution intérimaire, puisqu'on ne peut pas évacuer les colonies. En fait, la présence militaire israélienne reste partout dans les territoires. Le 25 septembre se tient à Eretz une nouvelle entrevue entre Rabin et Arafat. On se met d'accord pour la relance des négociations sur l'extension de l'autonomie, les prisonniers, les voies de passage vers la Jordanie et l'Égypte. Rabin tient à marquer qu'aucune date n'a été retenue pour les élections. L'accord est conditionné à l'arrivée de l'aide internationale. Pour Ehud Barak, qui accompagne le Premier ministre, je cite, « Nous ne bougerons d'aucun site de Judée-Samarie tant que nous ne serons pas certains que la sécurité des colons sera garantie. Nous n'abandonnerons jamais aucun Israélien. » Remarquez que Barak utilise Judée-Samarie, alors que Rabin utilise Cisjordanie, West Bank, dans son discours. On voit l'opposition entre les deux. Dès le lendemain, Rabin donne le feu vert pour la construction de nouveaux logements dans une colonie à proximité de la ligne verte. La ligne verte, c'est la ligne qui sépare la Cisjordanie d'Israël. Il met ainsi fin au gel de la colonisation, de toute façon peu respectée dans les faits. Dans l'année qui a suivi la déclaration de principe, le nombre de colons dans la bande de Gaza est passé de 4 300 à 5 100, celui de Cisjordanie de 125 000 à 136 000. Sur le terrain, on voit bien une stratégie consistant à densifier les implantations le long de la ligne verte et d'établir des corridors à travers la Cisjordanie, divisant le territoire en une série d'enclaves. La diplomatie américaine refuse d'entendre les plaintes des Palestiniens. La priorité absolue de soutenir Rabin dans sa stratégie de paix avec la Jordanie et surtout à la Syrie, ce qui constituerait un gain géopolitique majeur pour les États-Unis. Au mois d'octobre, les discussions israélo-palestiniennes permettent de définir les obstacles essentiels concernant la question des élections. Pour Israël, le Conseil n'ayant qu'une simple fonction de gestion, il n'est pas question d'autoriser les opposants à la déclaration de principe de se présenter aux élections. Il ne peut être un forum où s'opposeraient partisans et adversaires du processus de paix, car cela ferait de lui un véritable parlement. Les conditions de vote des habitants de Jérusalem-Est posent aussi problème. Les Palestiniens demandent une médiation de l'Égypte. Le 9 octobre, un attentat du Hamas fait 4 morts à Jérusalem, dont les 2 assaillants et 13 blessés israéliens. Rabin pousse Arafat à opter pour la force, mais les funérailles des 2 martyrs sont l'occasion d'une importante manifestation populaire. Le 11 octobre, un caporal israélien de 19 ans, Nashton Waxman, est enlevé par le Hamas à proximité de Tel Aviv. L'organisation demande en contrepartie de sa libération celle du cher Ahmad Yassin, de 215 détenus palestiniens et d'une vingtaine de militants du Hezbollah. L'émotion populaire est intense en Israël. La bande de Gaza est bouclée et les négociations sont suspendues. Rabin rend Arafat responsable de la vie du soldat. Des opérations conjointes de ratissage sont lancées. En dépit du fait que l'otage est certainement en dehors de Gaza, 300 militants et cadres du Hamas sont arrêtés. Le mouvement islamiste se pose en seul défenseur des prisonniers palestiniens. Le lieu de détention de l'otage est finalement identifié dans un village de Cisjordanie. L'armée israélienne donne l'assaut le 14 octobre. Waxman, un soldat israélien et 3 geôliers sont tués. Rabin revendique la responsabilité de l'échec, mais reconnaît la bonne conduite de l'autorité palestinienne durant la crise. Dans ce contexte, on apprend que Rabin, Peres et Arafat viennent de se voir décerner le prix Nobel de la paix pour leur contribution à l'établissement de la paix au Moyen-Orient. Le 16 octobre, le gouvernement israélien décide la reprise des négociations et la levée du bouclage de la bande de Gaza, je cite. Le gouvernement continuera de négocier avec l'OLP sur la base des accords signés et mènera une guerre sans merci contre les terroristes. Là, on a la formule habituelle depuis le début de la question de Palestine, qui est de mettre deux affirmations qui se contredisent sur le même plan. Le premier à avoir utilisé cette formule, c'était Sir Herbert Samuel au début des années 1920, quand il disait qu'il travaillait à la fois à développer les droits, enfin le mandat, et en même temps à créer un foyer national juif, ce qui était contradictoire avec la première partie de la phrase. De même, durant la Seconde Guerre mondiale, Ben-Gourion avait affirmé qu'il lutterait contre les Britanniques à cause du Livre blanc et il lutterait et combattrait avec les Britanniques en dépit du Livre blanc. Donc, vous voyez, cette formule avec l'articulation des antagonistes que Rabin reprend a évidemment une série d'échos dans l'histoire régionale. Le Hamas menace d'engager une épreuve de force avec l'autorité palestinienne si elle poursuit ses arrestations de militants islamistes. Je cite, « Les brigades Izzedine el-Qassam riposteront en mettant le feu à la bande de Gaza, dont les décombres s'effondreront sur la tête des sionistes et de leurs valets, quelles que puissent en être les conséquences. » Fin de citation. Dans l'immédiat, des manifestations pacifiques sont organisées pour exiger la libération des militants emprisonnés. Le 19 octobre, un attentat suicide d'un Palestinien saturé d'explosifs contre un autobus à Tel Aviv fait 22 tués et 48 blessés. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont immédiatement bouclées. Yahya Ayash, dit l'ingénieur, est considéré comme l'organisateur de l'attentat et recherché par les services israéliens. Washington appelle tous les pays arabes de la région à combattre le terrorisme en parole comme en acte. Rabin énonce toute une série de mesures répressives contre le Hamas avec la levée des restrictions judiciaires sur l'incarcération et l'interrogatoire des suspects. Il donne aussi sa vision à long terme des rapports avec les Palestiniens, une séparation nette entre les deux peuples. En ce qui concerne la Judée-Samarite, et ils disent encore à l'époque, je ne veux pas revenir aux frontières de 1967, mais nous trouverons une solution qui garantira notre sécurité sans avoir à gouverner un autre peuple. En attendant, fin de citation. En attendant, son action s'articule autour de trois pôles: fermeture des territoires, demande de coopération plus étroite dans la lutte antiterroriste avec l'autorité palestinienne de Gaza à Jéricho, poursuite du processus de paix. Ainsi, le bouclage des territoires occupés pour une période indéterminée a été qualifié de stratégique et non plus de technique. La séparation est bien à l'ordre du jour. L'autorité palestinienne qualifie la mesure de véritable déclaration de guerre économique et sociale. En traitant ainsi les Palestiniens, Israël reproduit la logique des sanctions collectives utilisées dans sa guerre des frontières avec l'Égypte et la Jordanie entre 1950 et 1970. Causer le maximum de dommages aux services collectifs et à la population pour forcer les autorités à lutter contre le terrorisme résistance. Si cette ligne de conduite avait été une réussite dans les deux premiers cas, elle avait ensuite entraîné l'effondrement de l'État libanais, une implication croissante d'Israël dans la guerre civile libanaise, puis l'émergence du Hezbollah. Dans la situation présente, l'action israélienne ne semble pas réussir à créer une véritable hostilité populaire au Hamas, alors qu'elle sape le fondement même du processus d'Oslo, selon ses concepteurs. L'amélioration tangible des conditions matérielles des Palestiniens devant créer une vraie place populaire au processus et assurer une acceptation de la solution définitive dans la population. La priorité absolue donnée à la sécurité, ou en tout cas à ce qui paraît assurer la sécurité, et la nécessité de prouver aux Israéliens que l'on agit dans ce sens aveugle le gouvernement israélien sur les conséquences à moyen et à long terme de son action. Arafat est ainsi pris entre le Hamas, qui le compare en général à l'Ahad et l'ALS, et Israël, qui le somme d'agir énergiquement contre le mouvement islamiste. Au Liban Sud, le même 19 octobre, l'armée israélienne utilise des obus antipersonnels, c'est-à-dire des obus fléchettes, armes interdites par les conventions de Genève, contre deux villages de la région de Nabatillé, dans un secteur relativement calme jusque-là. Un soldat de l'armée régulière libanaise et 6 civils, dont 2 fillettes, sont tués. Pour les autorités libanaises, les tirs israéliens non provoqués de mercredi pourraient avoir été une réaction de colère à l'attentat de Tel Aviv. En Israël, on explique que c'est le Hezbollah qui a attaqué pour soutenir des islamistes palestiniens du Hamas après que ceux-ci eurent revendiqué cet attentat. Selon la syntaxe, le Hezbollah répond par une salve de roquettes sur la Galilée. Rabin reconnaît que les tirs constituent une erreur qui aurait dû être évitée. Fin de citation. Là, nous allons faire la pause parce que nous avons une petite césure. Ce qui nous permettra dans la séance prochaine d'étudier le volet syrien et la paix israélo-jordanienne.